Toutes les musiques et les découvertes sont sur Calade, ma radio.
Calade Jazz. Bienvenue dans Calade Jazz,
l'émission de tous les jazz,
avec Julien, Richard et Dédé.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Calade ma radio. Soyez les bienvenus dans votre émission Calade Jazz. Je suis avec l'immuable Dédé à la technique. Bonsoir.
Bonjour.
Dédé. Julien, tu es là ?
Bonsoir.
Oui, il est là, Julien. Et notre amie Françoise au téléphone ?
Coucou à tous.
Eh bien, tout va bien. Nous sommes prêts ce soir pour vous rendre, pour rendre hommage, pardon, à un grand du jazz français. J'ai nommé Michel Petrucciani, qui est né en 1962 à Orange. Son père, qui s'appelait Antoine Petrucciani, dit Tony, napolitain d'ascendance, guitariste de jazz renommé, et qui a été son professeur de musique, qui a collaboré par suite d'ailleurs à plusieurs de ses albums. Antoine Petrucciani, entre parenthèses, a durant de nombreuses années donné des cours de guitare dans les écoles municipales de musique, comme la Londe-les-Morts, etc. Michel a eu deux frères, Louis qui était contrebassiste et Philippe, guitariste. La famille s'installe à Montélimar où leur père a tenu un magasin de musique. Et alors nous allons commencer avec un premier morceau familial, on va dire.
Ouais, ben, du coup, vu que tu parles de la famille, je commence par un morceau familial. C'est un titre, c'est une belle bossa de Antonio Carlos Jobim. Donc Michel partage ce morceau en famille avec son père Tony à la guitare et son frère Louis à la contrebasse. Ce titre est extrait de l'album Damn That Dream. C'est sorti en 1982 chez Celluloid Records et on écoute Corcovado.
C'était Corcovado. Donc je rappelle que Michel Petrucciani est handicapé de naissance du fait de la maladie des os de verre. C'est-à-dire qu'il a atteint la forme sévère de la maladie et il ne dépassera pas les 99 cm. Il sera victime de fractures même pendant ses concerts. Et pouvant pas être scolarisé, il va recevoir des cours de professeurs particuliers et issus un enseignement même par correspondance. Et on va enchaîner avec un autre morceau, Julien.
Du coup, là, j'ai choisi un titre de... écrit et composé par Michel Petrucciani. Mais Michel Petrucciani était aussi un grand compositeur. Il a composé pas mal de morceaux. C'est un morceau qui me tient à cœur parce que je l'ai joué un petit peu avec d'autres groupes qui s'appelle Colors. C'est un super morceau. Ah. C'est une une de ses magnifiques compositions. On le retrouve, ses fidèles complices, Steve Gadd à la batterie et Anthony Jackson à la basse électrique. Et sur ce morceau-là, ils sont accompagnés par une section de cuivre qui est dirigée par Bob Brookmeyer, avec Flavio Boltro à la trompette et Stefano Di Battista au saxophone, ses compagnons italiens. Ce morceau est tiré de l'album Both Worlds. C'est sorti en 1997 chez Dreyful Jazz.
C'était Colors. Alors, très jeune, Michel, il voit Duke Ellington à la télévision. Alors, il souhaite devenir pianiste, comme lui. Quel hasard, non?
Ben oui.
Et donc, du coup, quand Michel avait 4 ans, il a commencé à jouer sur son propre piano jouet. Mais Michel a brisé le piano avec un marteau jouet parce qu'il expliquait, il pensait que le clavier ressemblait à des dents. C'est comme s'il se moquait de lui. Alors, du coup, bah, il a cassé le piano. Voilà. Mais après, son père va réparer ça en lui achetant un vrai piano. Et on va en écouter un autre morceau sur ce vrai piano.
Vu qu'on parle de vrai pianiste et de pianiste, j'ai choisi une collaboration. Il a fait beaucoup de collaborations à Michel Petrucciani. Du coup, là, c'est en duo. En duo, du coup, pas avec un pianiste, mais avec un organiste. L'organiste s'appelle Eddie Ruiz. Hein, il est assez réputé, assez renommé. Il a joué aussi avec pas mal de gens. Et on va écouter une des compositions de encore Michel Petrucciani. Comme je disais, il a écrit beaucoup, 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 beaucoup de morceaux. Ce morceau s'appelle Simply Bop. Ce morceau est extrait de l'album Conférence de presse, en français, Conférence de presse, volume 1. C'est sorti en 1994 et toujours chez Dreyfus Jazz. Thank you.
c'était Simply Bop. Voilà. Il reçoit une formation musicale de son père qui va lui fabriquer un rehausseur de pédale, comme le fera plus tard Steinway. Ce qui explique effectivement, comme tu disais, Julien, qu'il
pourra arriver à. C'était plutôt Dédé qui nous racontait ça.
Parce que j'ai eu l'occasion de le voir sur scène, mais c'est incroyable. En fait, il déplaçait son corps sur le banc où il était assis. Donc, il ne déplaçait pas que ses mains, il déplaçait son corps. Pour arriver. Mais la mélodie, elle ne bougeait pas, il restait là, quoi. C'était extraordinaire.
Il va chanter les classiques du jazz à 3 ans, joue du piano à 4, accompagne le trompettiste américain Clark Terry à 13. Et maintenant, nous allons écouter notre amie Françoise qui va nous faire une brillante intervention, je crois.
Waouh.
Michel Petrucciani a prouvé que la grandeur ne se mesure pas en centimètres. Il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du jazz par son jeu, son style, son insatiable envie de vivre. Et comme pour lui, on peut se demander si Henri de Toulouse-Lautrec n'avait pas eu les os aussi friables que du cristal, s'il aurait laissé une telle empreinte dans l'histoire de l'art. Difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que la maladie qui l'a cloué dans un corps brisé lui a offert un regard unique sur un monde en perpétuel mouvement. Né en 1864 dans une famille noble, où les mariages consanguins étaient une habitude plus qu'une exception, ses parents étaient cousins germains, Lautrec n'a pas eu la chance de grandir normalement. La faute à une maladie génétique rare qui a transformé ses os en porcelaine. Deux fractures des fémurs à l'adolescence ont scellé son destin. Il ne dépasserait jamais 1m52 et vivrait avec une démarche incertaine, celle d'un homme pour qui chaque pas pouvait être un danger. Et toute sa vie, il gardera le regard d'un spectateur assis. Privé d'exploits physiques, Lautrec s'est jeté à corps perdu dans l'art. Lui qui voyait le monde d'un peu plus bas que les autres, l'a peint avec une acuité rare. Son regard est celui d'un spectateur assis, posé à hauteur de scène dans les cabarets parisiens. Il cadre ses œuvres comme un photographe, en quête d'angles inédits. Influence héritée des estampes japonaises qu'il admirait et de la photographie inventée en 1839, 25 ans plus tôt. Et puis il y a cette fascination pour les marginaux. Lautrec, rejeté pour son apparence, s'est reconnu dans les figures de la nuit, ces êtres en dehors des normes, ces danseuses de cancan, ces prostituées à Langui, ces artistes de cirque fatigués, tous sont saisis avec une tendresse mordante, loin du folklore enjôleur de Montmartre. Ces danseuses ne sont pas des créatures irréelles, mais des travailleuses aux muscles fatigués. Ces prostituées ne sont pas idéalisées, elles sont humaines, dans leur banalité quotidienne. À plusieurs reprises, il ira même avec elles, prenant une chambre au bordel. Et il ne va cesser de les représenter. Que fait-on quand on sait qu'on ne vivra pas longtemps? On crée avec urgence. Lautrec, conscient que son corps le lâchait peu à peu, a produit plus de 700 peintures et 350 lithographies en l'espace de quelques années. Son trait nerveux, presque fébrile, semble être le reflet d'une énergie qu'il ne pouvait pas dépenser autrement. Et ses couleurs vives claquent comme un défi lancé à la fatalité. Mais la maladie ne l'a pas seulement marqué physiquement. Psychologiquement, elle l'a peut-être poussé vers les excès. L'alcool à outrance, les nuits sans fin, les plaisirs immédiats, l'absinthe et les plaisanteries grivoises pour masquer la douleur. À 37 ans, Henri, Marie, Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa s'éteint, rongé par la syphilis et l'alcoolisme. À un an près, le même âge que Michel Petrucciani, autre génie affecté de la même maladie, autre artiste dont la fragilité physique n'a jamais freiné la puissance créatrice. Aujourd'hui encore, Lautrec fascine. Son style précurseur de l'affiche moderne a influencé le graphisme et la publicité bien après sa mort. Son regard tendre et acerbe sur les marginaux résonne encore. Et si sa maladie a brisé son corps, elle a aussi affûté son œil, comme si, à défaut de pouvoir courir le monde, il avait su en capter l'essence mieux que personne. Petrucciani, comme Toulouse-Lautrec un siècle avant lui, animé par une énergie indomptable, a préféré embrasser la vie à pleine main, même si celle-ci, courte et déformée, semblait mal taillée pour le destin qu'il s'était choisi.
Merci Françoise. Et maintenant Julien, tu vas nous présenter un autre morceau, s'il te plaît.
Oui, un autre morceau. Donc c'est une collaboration avec le légendaire violoniste Stéphane Grappelli, qui aussi qui a été compagnon de route de Django Reinhardt. Donc ils sont accompagnés là par Georges Maras à la contrebasse et on retrouve Ron Hayes, à qui on a rendu hommage récemment, il est décédé à la fin de l'année. Ron Hayes à la batterie. Ce titre s'appelle Little Piece in C for You, petite pièce en do pour toi. Donc c'est encore une composition de Michel Petrucciani, excusez-moi. C'est sorti sur l'album Flamingo en 96 chez toujours Dreyfus Jazz.
C'était Little Piece in C for You.
Ah, tu vois, tu le dis bien.
Bien, ça. J'ai répété. Pour parler de sa carrière, en 1980, il part aux États-Unis. Il va enregistrer avec le batteur Aldo Romano 5 albums entre 80 et 85. En Californie, il fait la connaissance de Charles Lloyd. Lloyd, comment on prononce ?
Lloyd.
Saxophoniste, très actif dans les années 1960. Alors reconverti dans les affaires. Charles Lloyd décide de se remettre à la musique et ils se reproduisent ensemble, voilà, tout simplement. Michel se produit au Club Village Vanguard. Il est le premier artiste non américain à signer un contrat avec Blue Note, chez qui il va rester 7 ans avant de rejoindre Francis Dreyfus. Et à la fin des années 80, il quitte la Californie pour s'installer à New York. Je crois que tu as un morceau de cette période.
Ouais. Faut que je retrouve parce que j'ai perdu ma page.
Je peux t'aider si tu veux.
Là voilà. Oui, du coup, vu que tu parles des albums Blue Note, j'ai choisi un morceau qui est sorti sur Music. Music, c'est son troisième album chez Blue Note. On y retrouve des musiciens très fabuleux. Adam Holzman au synthétiseur, Franck Collomb aux percussions, Lenny White. Alors, Lenny White, pour tout fan de batterie, il faut écouter du Lenny White. Donc, il est à la batterie. Et bien sûr, son compère Anthony Jackson à la contrebasse. C'est un morceau très emblématique que je vais vous faire écouter de Michel Petrucciani, qui est assez connu, qui s'appelle Looking Up.
ma radio.
Voilà, c'était Looking Up. Et dans les années 1990, Michel Petrucciani se produit en public, enregistre des albums en divers lieux du monde. Son jeu est caractérisé par une remarquable indépendance des mains gauche et droite et une vitesse d'exécution exceptionnelle due à un entraînement intensif et peut-être à ses grandes mains aux os légers, ce qui permet à ses doigts de rebondir très vite sur les touches. T'as un exemple peut-être ?
Ouais, j'ai une démonstration de cette technique exceptionnelle. Dans She Did It Again, sa main gauche dessine une mélodie, mais c'est pas vraiment une mélodie, c'est une tourne de basse à la main gauche. Et il joue d'une souplesse insoupçonnable le thème à la main droite sur les aigus. Et c'est vraiment extraordinaire. Et là, on se rend vraiment compte de la technique qu'il a, de l'indépendance qu'il a. Il est accompagné ici par Gary Picott à la contrebasse, très très connu, qui a joué aussi avec Keith Jarrett, entre autres. Et encore, on le retrouve bien sûr, Ron Hayes à la batterie, parce qu'en fait, il a pas mal joué avec Ron Hayes. Ce titre est tiré de l'album Michel Plays Petrucciani. C'est sorti en 87 chez Blue Note.
Thank you.
C'était She Did It Again. Je ne me suis pas trompé.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Voilà, Richard, je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Julien là. En fait, moi, à l'époque, je me souviens d'un interview d'une journaliste qui lui dit, mais monsieur, vous vous rendez compte, comme vous jouez, c'est absolument fabuleux. Il était très fataliste, il a répondu, écoutez madame, c'est simple, avec mon handicap, j'ai 8 heures par jour sur mon piano, je ne peux pas faire autre chose, donc je suis fatalement bon. J'avais adoré cette réponse, quoi.
Alors, comme on l'a dit, il est également compositeur, avec une préférence pour les thèmes brésiliens, qui sont très souvent présents dans ses disques. Et là, tu nous as trouvé un...
Alors, pas du tout.
Comment
un
ça
morceau brésilien.
Ben voilà,
c'est un morceau brésilien.
Ah ben non. Mais c'est vrai que toutes
le thème,
les...
je parle du thème brésilien.
Toutes les compositions qui sont faites sont vraiment tirées de la bossa nova, à part celle-là qui est un peu plus jazz, parce que c'est vraiment une technique, c'est vraiment de la virtuosité. Mais là, du coup, moi, je voulais parler des standards, en fait.
Ah bah, si on n'est pas raccord.
On n'est pas raccord. Je voulais vous parler des standards et je voulais vous parler d'une interprétation qu'il a faite de Someday My Prince Will Come. Bon, un jour, mon prince viendra. Je ne sais pas si ça vous parle. Chanson de Blanche-Neige. Alors là, il est en duo avec le célèbre contrebassiste dont on a déjà parlé, danois, Niels Henning Ørsted Pedersen, aussi connu sous le nom de NHOP. Et ce titre a été enregistré en 1994, puis publié en 2009. Écoutons « Someday my prince will come ».
C'était « Someday, my prince will come ». Donc, pour être bien raccord, Julien.
C'est un standard.
C'est un standard, ce n'est pas une composition influence
pas du tout.
Brésilienne.
Mais toutes les autres compositions sont toutes influencées par le.
Là, on s'est
compris. La plupart,
ouais. Voilà. Et alors maintenant, tu vas nous présenter un morceau qu'il a dédié à son fils qui était atteint de la même maladie que lui.
Oui, c'est ça. C'est un morceau qui s'appelle September 2nd. Parce que son fils est né le 2 septembre. Voilà. Donc, c'est sorti dans Playground en 91, toujours chez Blue Note. Je crois que c'est son dernier album chez Blue Note, si je m'en souviens bien. Alors, il joue cette fois-ci avec Omar Hakim, encore un fabuleux batteur. Il a joué avec que des fabuleux batteurs.
Hein,
Omar Hakim, pour tous les batteurs et tous les musiciens qui ont bien connu Weather Report, c'est le dernier batteur de Weather Report, entre autres. On retrouve Steve Fortune aux percussions, encore Adam Olson au synthétiseur, et bien sûr, Anthony Jackson à la basse électrique. On écoute un extrait de l'album Playground, enregistré en 1991 et publié chez Blue Note, c'est September 2nd.
Calade.
Ma radio.
C'était September 2nd et nous allons continuer avec un autre morceau, Julien.
Oui, un autre morceau qu'il a enregistré pendant le festival de jazz à Montreux en 1986. Alors comme je disais, il a joué avec les plus grands musiciens et là on le retrouve avec Wayne Shorter au saxophone, mon musicien préféré, hein. Un de mes musiciens préférés, et Jim Hall à la guitare. Ce concert est sorti sous le nom de Power of Three, il a eu même les hommages au Billboard, hein. Il a été longtemps troisième au Billboard américain par rapport au top album jazz. Et on va écouter Limbo, qui est une composition de Wayne Shorter. Allons-y.
Voilà, c'était Limbo. Et alors, rapidement, côté vie privée, il a eu quand même quatre compagnes. Erlinda Montagno, qui était une Américaine indienne, qui lui a ouvert l'accès aux États-Unis quand Michel, du coup, a passé plusieurs années en Californie. Ensuite, il y a eu Marie-Laure Roper, avec laquelle il a eu un fils, Alexandre, qui était, donc, comme on l'a dit, atteint de la même maladie que son père. Ensuite, une pianiste italienne, Gilda Butta, pas duré très longtemps. Et Isabelle Maillet, qui, c'est elle qui lui a tenu la main lors de ses derniers moments à l'hôpital Beth Israel de New York. C'est vrai, où il va décéder le 6 janvier 1999, épuisé par son rythme de vie et de tournée. Voilà, donc il est décédé d'une pneumonie à Manhattan. Et nous allons écouter un dernier morceau avant de nous quitter, Julien.
Oui, du coup, avant de nous quitter, je voulais quand même vous faire écouter son trio, le trio avec qui il a joué beaucoup, avec deux musiciens, ses fidèles amis. Donc on les a déjà entendus, mais pas en trio, c'était Steve Gadd à la batterie, et bien sûr Anthony Jackson, qu'on a entendu beaucoup de fois avec lui à la basse. Et il revisite ici le célèbre So What de Miles Davis. Cette version a été enregistrée en live lors d'un concert à Tokyo en 97, et s'est publié en 99, juste après la disparition de Michel. On écoute cet hommage vibrant, et alors ?
C'était un hommage donc à Michel Petrucciani. Vous pouvez nous réécouter le dimanche à midi, le jeudi à 19h et en podcast sur Radio Calade 100.9. Merci Julien, merci Dédé, merci Françoise.
À dans un mois.
Françoise, non, pas de Françoise.
Françoise, si elle doit être là, Françoise.
Oui, je suis là, voilà. À dans un mois.
Salut Françoise.
Que... Au revoir Françoise.
Bisous.
Voilà. Bisous. Merci chères auditrices, chers auditeurs pour votre écoute. Au revoir et à la prochaine fois.